premier des Alters Mardis, parlons solutions. Dans le cadre d'un nouveau partenariat, le groupe SOS et Ashoka entament un cycle de conférences communs pour aborder ensemble les enjeux sociaux majeurs de demain. Mardi dernier, l'entrepreneuriat, une solution pour tous ?
Tout première Alters Mardis, parlons solutions, ce mardi 9 février. Alters Mardis Parlons Solutions, c'est désormais le rendez-vous des Alters Mardis et des Parlons Solutions. Les Alters Mardis du groupe SOS, 26e du nom ce mardi, et 4e Parlons Solutions du groupe Ashoka. Ils fusionnent. Arnaud Moureau, directeur général d'Ashoka France, Suisse et Belgique. Joli mariage ce soir.
Il y a un joli mariage entre le groupe SOS qui organisait les Alters Mardis, Ashoka qui organisait ses Parlons Solutions. Vous savez que quand on voit que finalement on avance dans le même sens, ça fait beaucoup de sens de se marier, puis de se dire qu'on va peut-être avoir beaucoup plus d'impact en organisant les choses ensemble. On va mutualiser les réseaux, les sujets. D'une certaine façon, on va développer la notoriété de cet entreprendre autrement.
Le but, aborder ensemble les enjeux sociaux majeurs de demain à une fréquence plus rapprochée. Chaque semaine, désormais, à partir de la mi-février, les Alters Mardis Parlons Solutions, c'est chaque mardi.
Une fréquence hebdomadaire, ça veut dire beaucoup plus de travail, beaucoup plus de sujets, mais je crois qu'il y a un appétit très important aujourd'hui de la part du public sur tous ces sujets. Il y a énormément de thèmes à traiter et on est ravis de pouvoir, encore une fois, mutualiser nos réseaux, nos experts, et j'espère qu'on va pouvoir donner un éclairage un peu différent sur cette nouvelle façon d'entreprendre.
Les sujets abordés, l'entrepreneuriat social, bien sûr, toujours au cœur des préoccupations et des initiatives du groupe SOS aussi bien que d'Ashoka.
Pour ce qui concerne l'apport d'Ashoka, l'ensemble des entrepreneurs sociaux qu'on soutient, Mosaïque et Saïd Amouche, très prochainement. On aura à cœur de les mettre en lumière et puis on va aller aussi chercher d'autres organisations. On n'est pas sectaire du tout, il faut qu'on s'ouvre à un maximum de problématiques. Je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir balayer des sujets depuis l'éducation jusqu'au développement durable. Sans aucune guerre de chapelle, on est là vraiment pour donner envie à d'autres de rejoindre ce mouvement.
Signe des temps, peut-être ce contact toujours recherché par le public avec experts, entrepreneurs, professeurs d'université restera privilégié après chaque conférence. Comme il l'avait toujours été, aussi bien avec les Alters Mardis qu'avec les Parlons Solutions.
Je crois que c'est un signe de recherche de sens. Déjà, on a besoin d'être au contact de gens qui ont trouvé peut-être ce sens et leur voie, et on a besoin de ressentir quasiment physiquement leur énergie et leur passion. Ce genre de rencontre, avec beaucoup de monde, mais en même temps en petit comité volontairement, on n'est pas en train de remplir des salles de 500 personnes, on pourrait sans doute le faire. Mais je crois que garder une taille humaine à ces échanges, où on ne peut quasiment parler sans micro ou presque, ressentir la passion des entrepreneurs qui sont là et partager leur envie, c'est quelque chose d'essentiel. On a parlé ce soir d'exemplarité et je crois qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui ont envie simplement de ce petit déclic qui les fera passer à l'acte.
Les Alters Mardis Parlons Solutions sont comme la société, ils ne sont pas un phénomène exclusivement parisien. On peut donc en toute logique les retrouver sur le réseau social Facebook.
Oui, on a décidé de créer une page de façon à ce que de plus en plus de gens puissent venir nous chercher. Vous le disiez, c'est pas juste un mouvement parisien, ça se passe partout en France, partout dans le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à démultiplier l'impact de ce genre de conférences.
Dont acte ce premier Alters Mardis Parlons Solutions consacré à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, une solution pour tous ? Point d'interrogation. Grand point d'interrogation. André Letovski, il a notamment dirigé l'Observatoire de la création des entreprises en France.
Il faut que ça vous parle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un jeu d'indépendance, d'épanouissement personnel et d'oser faire. Il faut passer cette barrière-là. Si on ne la passe pas, évidemment, alors je dirais tout le monde peut entreprendre en soi, mais il y a des gens qui accrochent beaucoup plus que d'autres.
C'est difficile, dans son environnement familial, amical, d'affirmer qu'on a un projet de création. Enfin, ça peut être positif, mais ça ne l'est pas toujours. Et en tout cas, ça ne l'est pas assez.
Daniel Desguet, la fondatrice des boutiques de gestion, le premier réseau en France et celui qui a pignon sur rue d'accompagnement à la création d'entreprises.
Souvent, on nous assène des phrases négatives, des risques, des lourdeurs, des problèmes d'argent, avant de nous dire, mais voilà, toutes les choses positives, c'est d'abord les phrases négatives qu'on entend. J'ai envie qu'on dise d'abord tout ce qui est positif, même si on ne doit pas oublier les choses qui peuvent poser problème. Je pense qu'il y a les deux qui sont importantes, mais il faut toujours dire d'abord les choses positives pour toute chose. Voilà, c'est important, c'est déjà vrai avec un enfant, quand on l'éduque, quand on le forme, il faut d'abord valoriser ce qu'il a de positif avant de lui dire « mets pas ton doigt dans le nez ». Enfin, je veux dire, il faut trouver toujours les bonnes choses. Et peut-être on en manque un peu dans notre culture.
Ne peut pas être entrepreneur entrepreneur qui veut.
Arnaud Moureau.
Il faut être capable de bien s'analyser, de bien s'écouter. Ensuite, il faut être capable de s'ouvrir. Et je crois que c'était un des grands enseignements de ce soir. Être entrepreneur, c'est avant tout être capable de partager ses envies, mais aussi ses faiblesses, de ne pas en avoir peur et d'être capable de tout mettre sur la table et de bien se connaître.
J'ai toujours eu beaucoup d'énergie, oui. Oui, c'est une chance. Enfin, je suis né comme ça.
Danielle Desguet, profil type de l'énergie à revendre. À 16 ans, elle crée un restaurant coopératif. À 18, une charpenterie coopérative. À 19, elle lance le réseau des boutiques de gestion. Première entreprise accompagnée, un cinéma à Paris et non des moindres.
Un cinéma, où ça? À Paris. D'abord, il y a eu l'Escurial. On a aidé pas mal de cinémas parce qu'après, bon, bah, c'est le bouche à oreille. Un autre cinéma dans le 19e qui s'appelait le Rialto. Son baseline, sa phrase, c'était le cinéma en pantoufle. C'est vraiment un cinéma formidable qui n'existe plus. L'Escurial existe toujours. Et le Max Linder, qui est un cinéma sur les grands boulevards. Les trois cinémas étaient voués à la destruction d'ailleurs. Et le Max Linder a été repris par une équipe très très courageuse. Maintenant, c'est dans le réseau de la Cinémathèque, mais c'est un cinéma qui avait pour particularité d'avoir le meilleur son et écran, la qualité de l'écran de Paris. Ça a été ça son créneau, et avec des fauteuils numérotés, etc. C'était un très très gros investissement, formidable cinéma, qui coûtait à l'époque 1 franc de plus que les autres salles, mais qui avait beaucoup beaucoup de choses en plus. On pouvait réserver sa place, par exemple. On pouvait téléphoner et réserver le rang 2, la place 6, qui était par exemple la place de Marilyn Monroe. C'est très amusant, c'est un énorme dossier, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce projet.
Créer une entreprise n'est pas à la portée de tout le monde, c'est rarement comme dans un fauteuil. Peut-être que le système économique et fiscal français n'y incite pas forcément. Les associations en France explosent littéralement. Est-ce qu'à votre avis, ça pourrait pas être autant d'entreprises?
Il est vrai que finalement créer une association, développer une association, c'est déjà du goût pour entreprendre quelque chose. C'est déjà une pratique, je dirais presque de la vie démocratique, qui fait qu'après on est plus enclin à entreprendre autre chose.
Il faut beaucoup d'argent pour créer. La moitié en haut de point de départ réunit moins de 8 000 euros. Quand je dis réunit, ça veut dire que c'est aussi bien l'argent personnel dont ils disposaient que le petit prêt, que l'argent de la copine, que la grand-mère qui, etc. Hein, éventuellement même la carte bleue quand il y a... Bon, il y a donc moins de 8000 euros, la moitié des créateurs, ce qui n'est pas énorme, 8000 euros aujourd'hui. Surtout pour des chômeurs qui ont un certain nombre d'indemnités, c'est aussi compatible. Consultant, vous avez votre domicile, vous avez votre micro, vous avez votre voiture. Vous avez besoin de quoi? 2000 euros, pas plus. Du fonds de roulement, on n'y pense jamais à ça. C'est-à-dire que le client ne va pas vous payer avant 3, 4 mois, 5 mois. Donc entre-temps, si vous n'avez pas d'autres ressources, il faut vivre. Donc c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas tant l'achat du matériel informatique dans ce cas-là, mais c'est d'avoir de l'argent de côté pour soi vivre pendant ce temps-là.
Mieux vaut essayer d'être salarié ou mieux vaut tenter?
C'est un état d'esprit. Dans des travaux que j'avais fait récemment, j'ai bien constaté que par exemple des cadres, on a fait une sorte de groupe pendant 2 heures et demie, on les avait parlé sur est-ce qu'ils étaient heureux d'être chef d'entreprise et pourquoi. La plupart de ceux qui étaient là, ou même tous, nous ont dit ras-le-bol d'être salarié, on n'écoute pas ce que je propose, j'ai beau avoir une position confortable, je suis 1000 fois mieux dans ma boutique, mais j'ose pas le dire à mes copains parce qu'on a développé, on fait du chiffre aujourd'hui, on fait de l'argent, et mes copains sont un peu jaloux finalement, donc on se tait. Bon, j'ai interrogé des gens des quartiers, vraiment dans les situations difficiles. Il y avait une autre raison d'être heureux, ils nous disaient quoi? Ils disaient, on est fiers que nos enfants aient un bel exemple. On est fiers, nous, de rentrer un peu d'argent, même si on n'est pas encore sûr d'être là demain. On est reconnu dans la rue, on est apprécié comme tel. Vous voyez, c'est une autre motivation, mais qui est tout aussi importante. Du moment qu'ils puissent en vivre, même très modestement.
On aide à créer environ 1 personne sur 10 personnes qu'on a accompagnées, hein, en gros. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail, d'abord, donc sur les 15 000 personnes qui créent, ça veut dire 10 fois plus. On doit accompagner la personne aussi dans le deuil ou dans le choix de ne pas développer son projet, ce qui est très très important. Ces 9 personnes sur 10 doivent comprendre par elles-mêmes, vraiment en elles, le fait que ce n'est pas le bon moment pour elles, parce que le projet n'est pas valide, parce que le marché n'est pas acquis.
Ce n'est pas la question de savoir si on va gagner de l'argent ou pas. Le tissu aujourd'hui économique de la France est constitué de TPE et de PME, dont le fondateur ou le gérant gagne relativement mal leur vie par rapport au secteur salarié. Donc je crois que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'avoir envie, c'est une question d'être libre de ses choix, c'est une question d'indépendance et de liberté.
Je reviens à la niche de marché. Alors ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est que du côté des jeunes dont je parlais tout à l'heure en école et ailleurs, y compris boutique de gestion par exemple aussi, on voit beaucoup de personnes qui ont compris ce que c'était qu'une niche de marché. C'est-à-dire qu'ils ont un produit ciblé pour un client et non pas je suis menuisier ou je suis plombier, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ils ont donc compris la niche de marché, c'est-à-dire qu'on a bien ciblé son client, on situe mieux sa concurrence et à ce moment-là on peut y aller.